droits d'auteur ne sont que les tips de l'industrie. La SACEM me file tout juste de quoi me payer. Ce que dis, tu veux savoir? J'garde mon boulot, c'est mon loyer. Je lui dis qu'écrire, c'est de l'or. Mon proprio se met à se marrer. Ce que je crache à le bout de mon âme, sauvé depuis que je fous dans mon art. Noyé dans l'océan fou de mon drame, racine nourrissant les bourgeons de mon arbre. Oui, je respire des vapeurs bénéfiques, camé sonore loin de l'or et des filles. Facile et chaude, disons que mes récits parlent plus au prolo qu'au buveur des lessives. Les trônes, je leur lèche, j'ai ma vie chez empaille. Dans un fond d'arrière-cour entre joie et entaille. Les trônes, je leur lèche, j'ai ma vie chez empaille. Et au fond, je m'en fous que ces pieds soient bancales. Frappe dans leur côte pour faire plier les forts. Frappe dans leur côte pour faire vibrer les corps. Terre à main nue pour que jamais les porcs ne viennent ronger mes os, c'est mon ultime effort. Lucio Bukowski, Scratch Bandit Crew, ce que t'appelles le game, n'est qu'une entreprise. Lucio Bukowski, Scratch Bandit Crew, ce que t'appelles le game. N'est qu'une entreprise. Le game n'est qu'une entreprise. Des postes, des lèches-culeurs, elles se reniflant les entrecuisses, espérant grimper, baiser la nouvelle secrétaire. Ces crétins, secrètement, se rêvent en brillant sociétaire. Range ta 8-6, j'ai ma duvel au frais. Range ta CB, ce poème est offert. Dérange tes idées pour mieux les étoffer. Les mauvais penchants font d'excellents trophées. Ne bouge pas d'un pouce et leur mise à l'index n'est qu'une minable tape sur le dos de ma main. Je crée, je t'emmerde pour le plaisir. Pas à la mode comme le credo latin. La messe est dite, mes hosties sont des scuds. Je ne m'arrête jamais comme un riche alcoolique. Aucune limite, je me marre dans mon coin pendant qu'ils se démènent dans des clips à pleurer. Et plus en un an que dans leur carrière, dis plus en un blanc que dans leur manière. Élève le drapeau des damnés de l'art, montrant plus de noblesse que mille de leur bannière. Lucio Bukowski, Scratch Bandit Crew, ce que t'appelles le game, n'est qu'une entreprise. Lucio Bukowski, Scratch Bandit Crew, ce que t'appelles le game, n'est qu'une entreprise.
Il est 4h en temps universel, vous êtes sur RFI, Radio France Internationale. Et 6h à Paris pour retrouver le journal de Nemo Ampis. Bonjour Nemo.
Bonjour Edouard, bonjour à tous. Nous sommes à Port-au-Prince dès le début de ce journal, la capitale haïtienne où l'on s'inquiète de la fin du TPS, ce statut de protection accordé aux Haïtiens aux États-Unis et qui doit prendre fin lundi. En cas d'expulsion potentielle de dizaines de milliers de membres de la diaspora, les conséquences pourraient être lourdes dans le pays. Un accord sur le nucléaire civil entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, de quoi se réjouir du côté de Riyad. Oui, mais c'était sans compter sur une condition de dernière minute ajoutée par Donald Trump, la normalisation des relations avec Israël. Et puis, les conséquences directes et visibles du dérèglement climatique, ça brûle en Espagne et en France notamment, et ça prive de courant des millions de Tunisiens. Reportage dans cette édition. Il avait été accordé en 2010 par le président américain de l'époque, Barack Obama, après le terrible séisme qui avait touché Haïti, le TPS. Ce statut de protection temporaire qui permettait à ses bénéficiaires de ne pas être expulsés des États-Unis et de pouvoir y travailler. Eh bien, Donald Trump est parvenu à le révoquer. Il devait prendre fin aujourd'hui, mais tiendra finalement jusqu'à lundi après décision d'un juge fédéral. En tout, ce sont près de 350 000 Haïtiens qui sont donc désormais menacés d'expulsion. Et les conséquences, je vous le disais, pourraient être lourdes, autant économiques qu'humanitaires. Inquiétude ressentie notamment à Port-au-Prince. Reportage de Peterson Luxama dans la capitale haïtienne.
Alors que la décision n'est pas encore effective, elle fait déjà naître de l'inquiétude à Port-au-Prince. De nombreux habitants retiennent leur souffle, à l'image de Betson, rencontré à Delma, qui dit craindre le pire.
Son pays qui... En Haïti, la majorité des familles dépendent de la diaspora. Beaucoup de migrants haïtiens bénéficiant du TPS ont des proches qu'ils soutiennent financièrement. Penser à les expulser serait vraiment dramatique et grave.
Inquiétude et crainte aussi chez Stéphanie, croisée à Pétionville. Selon elle, Haïti n'est n'est ni économiquement ni sécuritairement prête à accueillir des centaines de milliers de personnes expulsées.
Si une telle décision arrive à être effective, quel sera le sort de nos compatriotes haïtiens aux États-Unis? Il ne faut pas oublier, ce sont des gens qui ont laissé Haïti derrière eux pour aller chercher une meilleure situation ailleurs. Et le pays n'est pas encore prêt à les recevoir.
Jean-Baptiste nuance toutefois le débat.
C'est vrai, la décision pourrait faire beaucoup de mal à nos compatriotes. Toutefois, je pense que c'est une bonne occasion pour eux de contraindre les autorités haïtiennes à agir pour améliorer les conditions de vie en Haïti et notamment la situation sécuritaire.
Alors que l'échéance approche, le gouvernement haïtien, de son côté, reste discret. Aucun plan officiel n'a été présenté pour faire face à un éventuel retour massif de migrants. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Donald Trump annonce la visite le 24 septembre prochain de son homologue chinois. Xi Jinping ira à la Maison-Blanche pour parler intelligence artificielle, dit Washington. Pendant ce temps, l'armée américaine a opéré sa 13e nuit consécutive de frappes sur l'Iran. Des cibles militaires ont une nouvelle fois été visées. Objectif toujours clair, selon le commandant militaire américain pour le Moyen-Orient, réduire les menaces que font peser les gardiens de la révolution iranien sur le trafic maritime. Donald Trump, lui, déclare que les fonds iraniens gelés et détenus par son pays serviront désormais à rembourser les dégâts sur les navires touchés dans le Golfe, alors que les rebelles houthis, alliés de Téhéran, ont ouvert, eux, un deuxième front dans la guerre en revendiquant des attaques en mer Rouge et annoncent un blocus des navires saoudiens. L'Arabie Saoudite, premier exportateur de brut au monde, conséquence, le baril de Brent est repassé hier au-delà des $100 l'unité. L'Arabie Saoudite, justement, qui salue une victoire après la signature d'un accord avec Washington pour doter le pays d'un programme nucléaire civil, qui fait craindre à beaucoup d'observateurs une prolifération nucléaire au Moyen-Orient. Sauf que quelques heures plus tard, Donald Trump, encore lui, a posé une condition qui semble difficilement acceptable pour Riyad, la normalisation de ses relations avec Israël. L'Arabie Saoudite peut-elle céder ou le président américain a-t-il d'ores et déjà tué l'accord? Je vous propose d'écouter l'avis d'Akram Zawi, chercheur associé à ORF Middle East, un think tank basé à Dubaï.
Je ne sais pas s'il a tué l'accord. Je pense que les Saoudiens, en fait, ont plus de temps que Trump. Et je pense qu'ils ont réussi à faire avancer leur position. Ils ont la signature du gouvernement, de l'administration américaine, sur un accord sur le nucléaire civil, qui est quelque chose qu'ils cherchent depuis très longtemps. Ils sont pas dans la même temporalité que Trump, ils sont pas menacés par des élections, etc. Mais ils sont en train de faire avancer la discussion à Washington. Est-ce que la mise en œuvre de l'accord va être menacée? Je pense que la mise en œuvre de l'accord était problématique dès le début. Mais le paramètre stratégique qui a changé dans la région, c'est qu'Israël est moins une menace pour l'Arabie Saoudite. C'est l'Iran qui est vu comme problématique. Donc je dirais que cette donne du nouveau risque stratégique immédiat sécuritaire qui est celui de l'Iran, qui remplace celui d'Israël, qui peut rendre relativement plus attractive l'option de la normalisation. Est-ce que c'est pour demain? Je ne pense pas du tout.
L'analyse d'Akram Zawi recueillie par Nicolas Feldman. Les États-Unis qui vont imposer à partir de ce vendredi de nouveaux droits de douane contre une soixantaine de partenaires commerciaux qu'ils accusent de ne pas lutter suffisamment contre le travail forcé, des taxes de 10 à 12,5%. Plusieurs réactions de ces pays concernés cette nuit. Le Japon dit regretter cette décision. L'Australie la juge injustifiée quand la Nouvelle-Zélande dénonce des droits extrêmement décevants. Notons que ces droits surviennent alors que les droits de douane temporaires de 10% mis en place par Donald Trump arrive à expiration. L'urgence nationale déclarée en Espagne, dans la région de Madrid et dans la province d'Avila, non loin de la capitale, face à une avancée des feux jugés incontrôlables par les autorités. Ce dispositif permet à l'État espagnol de mobiliser davantage de ressources pour intervenir sur le terrain. Il faut dire que le pays est particulièrement touché par les incendies. Le feu de Guadalajara a déjà calciné 32 000 hectares autour de Madrid et certains autres foyers sont très menaçant. Reportage de François Musso à Tres Cantos, dans le nord de l'Espagne.
Sur la grande avenue de cette commune de banlieue, les gens n'emmènent pas large. Le vent souffle derrière un immense nuage rosé par la fin du jour et chargé de particules en suspension du fait des nombreux incendies alentour. Certaines personnes portent des masques de type FFP2 ou N95, les plus performants. Lydia, une jeune étudiante, est toute remuée par ces menaces si proches.
J'ai vu le feu plutôt proche, une lumière bizarre. J'ai vu des cendres tomber du ciel et en revenant, j'ai fondu en larmes parce que ça me rend très triste. Il y avait une femme qui m'a raconté qu'un hangar entier avait brûlé.
Elle n'a pas encore séché ses larmes et dit craindre que d'autres incendies s'approchent de cette cité dortoir très exposée. En août 2025, les flammes avaient tué ici une personne, s'était engouffrée dans des lotissements et avait brûlé vif un troupeau de brebis et une grosse vingtaine de chevaux. Tout près de là, Juanma, nutritionniste, est lui aussi désolé, voyant les incendies qui se rapprochent dangereusement.
De la peur, car on ne parle plus seulement de feux lointains, il s'agit de la capitale. Et oui, c'est alarmant, car le changement climatique se fait sentir fortement. Espérons que l'on en prenne davantage conscience.
À Villa del Prado, Almorax, pas très loin de là vers l'ouest, les vents rapprochent les flammes. Ici, on prie pour que les pompiers les arrêtent à temps. À Tres Cantos, banlieue de Madrid, François Musso pour RFI.
Des incendies un peu partout dans le sud de l'Europe, c'est également le cas en France. Plus de 20 000 personnes évacuées en Gironde pour 44 800 hectares partis en fumée. Face à cette situation, le président français Emmanuel Macron a annoncé avoir demandé l'activation du mécanisme de protection civile de l'Union européenne qui doit permettre l'arrivée rapide de renforts aériens pour lutter contre ces feux. Des incendies également nombreux en Algérie. En quelques jours, 6 personnes ont perdu la vie. Des incendies favorisés évidemment par les fortes chaleurs, elles-mêmes provoquées par le dérèglement climatique lié aux activités humaines. Des chaleurs qui n'ont pas que les incendies comme conséquence. Parfois, ce sont des coupures d'électricité massives. C'est le cas depuis une quinzaine de jours en Tunisie. Face à un pic de consommation en pleine canicule, des opérations de délestage du réseau électrique surviennent et ces coupures sont parfois conjuguées aux coupures d'eau. Une situation qui devient invivable au quotidien. Reportage à Tunis et à El Fars de Lilia Blaise.
À El Fars, au nord du pays, l'électricité est de nouveau coupée en début de soirée, après plusieurs interruptions intempestives dans la journée. Mohamed Ali, vendeur de sandwich, continue de préparer les commandes de ses clients. Il cède de la torche de son téléphone.
Je m'adapte vu que ça coupe toutes les deux heures. J'essaie de faire tout à la minute et de ne pas trop stocker les denrées pour éviter que ça tourne. Ça fait 3 semaines qu'on est dans cette situation et personne ne comprend rien car il y a des coupures sans arrêt.
Dans le café d'à côté, sur les chaises dispatchées sur les trottoirs, les habitués boivent leur citronnade, imperturbable, bien que plongé dans le noir, comme Hassan, 19 ans.
Moi, je travaille avec mon père qui est boucher et je peux vous dire que ça nous coûte très cher les frigidaires qui tombent en panne à cause des coupures répétées, sans compter que l'on n'a pas d'eau depuis une semaine.
Le mécontentement se fait entendre dans plusieurs régions du pays où certains habitants ont manifesté. À Kairouan, au centre de la Tunisie, où un pic de chaleur de 49 degrés a été enregistré la semaine passée, la situation est difficilement soutenable, selon Fawzi Mokadem de la Ligue tunisienne des droits de l'homme.
À Kairouan, beaucoup sont mécontents, mais ils préfèrent rester chez eux plutôt que sortir dans la rue pour manifester. Comme vous le savez, celui qui exprime une opinion critique peut se retrouver du jour au lendemain en prison.
Le président Kais Saied a ordonné des mesures immédiates contre les coupures d'eau et d'électricité qu'il a qualifiées de phénomènes anormaux. L'Ordre des jeunes médecins a recensé près de 150 morts de la canicule et a dénoncé le silence du ministère de la Santé qui n'a pas commenté les chiffres. Lilia Blaise, Tunis et El Fars, RFI.
Merci d'être à l'écoute de Radio France Internationale. On poursuit ce journal avec l'Union Européenne qui a infligé hier jeudi à Google une amende de 890 millions d'euros, notamment pour des atteintes à la concurrence dans la recherche en ligne et au sein du magasin d'application Google Play. Eh bien, le géant américain qui est désormais habitué à ces amendes. Ce matin, on s'intéresse au fonctionnement de ces sanctions décidées par la Commission de l'Union européenne qui a pour mission d'être gardienne des traités et qui doit donc faire respecter le droit européen. Précision depuis Bruxelles avec Pierre Benazé.
Il y a depuis l'origine le droit de la concurrence et depuis 2023 les règlements sur le marché numérique et sur les services numériques. Mais ça ne s'arrête pas là parce que le non-respect des règles agricoles, douanières ou environnementales peuvent par exemple aussi entraîner des amendes. Google en est le champion avec une amende de plus de 4 milliards d'euros en 2018. Et l'entreprise occupe les 3 premières marches du podium des amendes les plus lourdes, soit au total plus de 10 milliards d'euros d'amendes depuis 9 ans. Ces amendes doivent être payées dans un délai de 3 mois et le fait d'introduire un recours n'est pas suspensif. Les fonds sont donc versés, quoi qu'il arrive, au budget commun de l'UE, d'autant que les procédures d'appel peuvent durer plusieurs années. En moyenne, ces amendes ont représenté 1,5% du budget de l'Union sur la dernière décennie, mais ce n'est pas l'UE qui s'enrichit, ce sont les 27 qui font des économies parce que les amendes ne font que réduire la contribution de chaque État au budget commun. Le Parlement européen voudrait que ça devienne des recettes supplémentaires, mais les États refusent pour l'instant de renoncer aux ristournes que ces amendes leur procurent. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Il est 6h12 à Bruxelles, dans une petite vingtaine de minutes, le retour de l'actualité africaine. Avant cela, on poursuit jusqu'à 6h30, heure de Paris. Une semaine après la fin de la Coupe du Monde masculine de football, une autre compétition de ballon rond démarre ce dimanche sur le continent africain, la CAN féminine, 14e édition au Maroc. 16 sélections tenteront de soulever le trophée et parmi elles, la Côte d'Ivoire. 12 ans que les éléphantes n'avaient plus participé à la Coupe d'Afrique, un retour qui coïncide avec le retour du football féminin dans le pays. Et bien qu'il ne soit pas si flamboyant, un engouement naissant apparaît autour du football féminin en Côte d'Ivoire. Reportage de Momolamine Sissavané à Abidjan.
Sous la houlette de Renel Pedros, les joueuses de l'équipe nationale s'entraînent allègrement. Le football féminin semble avoir trouvé un second souffle. Bernadette Kakuna, joueuse du Bayern et capitaine des éléphantes.
Maintenant, nous voyons l'énergie et les moyens que déploie la fédération pour promouvoir le foot féminin. Tout n'est pas parfait, mais il faut reconnaître qu'il y a eu des avancées majeures.
L'ambition de la fédération en faveur du foot féminin a été matérialisée notamment par la nomination de l'entraîneur expérimenté Renel Pedros au poste de sélectionneur en janvier 2025.
Il y a énormément de progrès qui ont été faits, énormément aussi d'investissements de la part de la fédération qui nous ont permis de travailler. Ce qu'on a montré sur le terrain footballistiquement, c'était très intéressant. Mais on doit continuer à travailler dans cet état d'esprit-là.
Dans les coulisses de la fédération, on rappelle à qui veut l'entendre que le développement du foot féminin constitue une priorité stratégique.
Le football féminin, de façon générale, on revient de loin.
Peira Elina Kasebedo, vice-présidente de la commission du football féminin.
On a une certaine notoriété qu'on commence à construire. Ce qui fait qu'au niveau des pratiquantes, il y a un grand engouement et quand il y a de détection, on reçoit des milliers de filles. Aujourd'hui, nous avons vraiment des talents. On a plus de 50 filles à l'international.
Au plan national, le public a pu assister ces trois dernières années à divers tournois féminins des sélections et des clubs.
Avec la régularité des matchs, la participation à de grandes compétitions et la qualité des matchs, l'opinion du public a beaucoup changé au regard du football féminin.
Un public qui a effectué nombreux de déplacements lors du dernier match des éléphantes avant leur départ à la CAN. Habib Koulibaly suit assidûment le football féminin et le promeut.
Les filles de Côte d'Ivoire, vraiment, on constate maintenant qu'elles s'améliorent. Si on vraiment veut élever le football féminin en Côte d'Ivoire, il faut que les gens viennent soutenir.
Junior Irié, autre supporter et fan du foot féminin.
Moi, ça me fait toujours plaisir de voir les filles jouer. Ça montre qu'elles ont vraiment l'amour pour le football. Ça montre aussi qu'elles peuvent faire mieux que les hommes aussi parce qu'il y a la qualité et puis il y a les buts qui sont vraiment magnifiques à voir.
Joueuse de l'équipe nationale et capitaine de la SEC Mimosa, Eric Agnoué se réjouit de la présence du public lors des dernières affiches majeures du foot féminin.
collect call from Gibson Haynes. Will you accept the charges, terms, and conditions?
Yes, I will.
All right, sir, go with you, Mr. Haynes.
Coming live on Interstate 10 on the Continental Divide. It's Antelope, at the Antelope Wells, Hot Cheetah exit. My name is Gibson Haynes.
I'm hungry.
I'm so hungry.
Just don't feel like eating.
C'est désagréable à l'oreille, mais enfin c'est bien ce qu'on entend en ce moment sur l'amélioration de fréquence.
À Évreux, 102.4, dans le sud de l'Eure, 95.9.
Et là, on va vous balancer de la musique. C'est parti, les gars.
Thank you.
Quand je te parle, je suis en état d'ébriété, un peu comme l'état français. T'es un peu comme sobriété, un mec pas très avancé. Les vannes émanent abondamment, les dames réclament de beaux diamants. Les âmes entament les cœurs aimants, les ânes clament un boliment. En état d'ébriété, un peu comme l'état français.